Cours de philosophie du vivant par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 14 avril 94.
Plus on est en face d'une vie profonde, plus cette vie écarte tout ce qui est comme médiateur, comme intervenant de l'extérieur, parce que ça enlève ce qu'il y a d'unique à être spectateur, à être plus que spectateur, celui qui expérience, celui qui fait l'expérience de l'opération vitale. Il n'est même plus du tout spectateur. Le spectateur, c'est celui qui regarde de l'extérieur. Vous n'avez qu'à penser à un accident d'auto. Vous êtes spectateur quand c'est pas vous qui êtes accidenté. Et dès vous êtes dedans. Et vous expérimentez de l'expérience de mes diverses opérations de vie, de mes diverses opérations vitales, depuis le réveil du matin, qui est toujours la grande expérience. On se réveille de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Et ça joue toute la journée, ça. Le réveil du matin, quand on est très fatigué, et saluer avec beaucoup d'amour. Oui, saluer au contraire avec une fureur cachée et retenue. Le cours de métaphysique, le matin, avant le petit déjeuner, indispensable. Avant, il y a la prière. La prière, c'est normal. Que ce soit avant le petit déjeuner, le cours, c'est anormal. C'est une de nos spécialités. Spécialité de la maison, n'est-ce pas ? C'est le vin du patron. Source plus ou moins immédiate de ces opérations. grâce à la réminiscence, grâce à mes passions. Il y a toute une vie intérieure, tout le psychisme, qu'on appelle le psychisme aujourd'hui, tout le psychisme qui est commandé par ce domaine spécial de l'intentionnalité sensible. Et l'intentionnalité sensible existe dès la connaissance sensible, la sensation, l'imagination. Je suis dans un domaine de l'intentionnalité sensible. Ce n'est pas la réalité telle qu'elle existe à l'extérieur. C'est la réalité telle qu'elle existe en moi. Elle est assimilée en moi. Toutes les opérations sensibles me donnent un patrimoine de vie. Toutes les expériences que j'ai de ce domaine imaginatif, ce domaine de la réminiscence, c'est un patrimoine sensible que je porte en moi. Et qui me permet, du reste, d'avoir une certaine autonomie. La première autonomie commence par nos sensations, dont nous portons l'intentionnalité en nous. Parce que là, on peut se rappeler ce qu'on a vu, ce qu'on a senti, ce qu'on a imaginé. Donc c'est déjà un patrimoine qui est un patrimoine sensible que nous portons en nous. C'est tout un climat particulier que nous portons en nous. Et nous voyons que parmi ces opérations vitales, il y a la connaissance qui implique la signification. Il y a deux types de connaissances. La connaissance de représentation et la connaissance impliquant une signification. Là, il y a un partage extrêmement important à saisir. Le domaine de la représentation, c'est un domaine imaginaire que je peux décrire. Je décris tout ça mène là. Je ne l'analyse pas, mais je le décris. Je peux le ponctuer, mais pas l'analyser. Et il y a un domaine tout à fait spécial dans lequel je pénètre plus avant, qui est le domaine de la signification. Cogito, quand je me mets à penser, je pense toujours à quelqu'un ou à quelque chose. vous avez la psychologie de l'affectivité freudienne et la psychologie de la représentation, de la signification et de la représentation du côté de l'intelligence ou du côté de l'imaginaire. Mais il y a les deux. Notre psychisme implique les deux. Notre psychisme n'est pas seulement affectif. Notre psychisme est aussi intellectuel. Et intellectuel est lié à l'imagination, à la représentation. Mais c'est sûr que ces domaines sont très liés. Il ne faut surtout pas les séparer. Ils sont très liés. Et tout ce domaine de la signification est quelque chose dont je peux en avoir l'expérience. J'essaie de comprendre ce que cela signifie quand je me mets à penser. Et je pense tout le temps à quelqu'un. Le cogito de Descartes, qui est un pur cogito, n'existe pas. Parce que même quand Descartes pense, il pense à lui. Donc il devrait dire cogito de lui-même. Et comme il est bien élevé, il parle que du cogito. Mais philosophiquement, c'est dommage. Parce que quelquefois, la bonne éducation supprime la philosophie. Parce que ça devient quelque chose de conventionnel. C'est tout à fait conventionnel, le cogito de Descartes. Vous n'avez jamais pensé pour penser. Vous pensez à quelqu'un. C'est ce que Husserl fait la remarque à Descartes sur les méditations sur le cogito. Il dit, je pense toujours à quelqu'un. Je ne peux pas séparer le cogito de son objet. Donc je pense toujours à quelqu'un. Je pense quelqu'un. Je m'assimile quelqu'un. C'est une remarque très juste. Et qui, alors, immédiatement, vous voyez, me met en contact avec ce qu'on appelle l'objet de pensée. Je pense à quelqu'un. Tandis que quand vous vous représentez quelque chose. Et le domaine de la représentation implique aussi référence à autre chose. Je me représente, je me figure tout un domaine particulier de réalité extérieure à moi, de pensée autre que moi. Donc, il y a le cogito. Je pense à quelqu'un. Et puis il y a la représentation. Cela me semble très important à bien distinguer tout de suite ces deux domaines. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le domaine de la signification, à la différence du domaine de la représentation? Et je crois qu'il faut bien discerner cela dans mes expériences internes. C'est que toute représentation est singulière. La signification seule peut être universelle. Donc la grande séparation, la grande distinction, disons pas séparation, la grande distinction qu'il faut tout de suite avoir quand on entre dans ce troisième degré de vie, qui est la vie spirituelle, c'est de bien distinguer dans mes opérations vitales des opérations qui sont de l'ordre de la représentation, qui regardent toujours quelque chose de singulier. Et le domaine de la signification, où je suis en présence de l'universel. Donc vous voyez, le concret, le singulier et l'universel sont toujours liés à la représentation et à la signification. De sorte que je ne peux pas réfléchir sur le singulier et l'universel sans qu'il y ait une pensée, sans qu'il y ait une imagination. Et ça c'est très important comme petite remarque, très simple, puisque ça c'est l'expérience. Il y a des personnes qui sont tellement habituées à se représenter quelque chose qu'au bout d'un certain temps elles ne pensent plus. Et d'autres personnes qui sont tellement habituées à penser qu'elles ne se représentent plus rien. Il y a vraiment une distinction qui peut devenir une séparation et qui modifie profondément le psychisme de chacun. C'est pour ça que je trouve très dommage que toute la psychanalyse freudienne regarde que l'affectivité sans regarder le point de vue de la connaissance. Ça, c'est une très grande faiblesse au freudisme. Parce que le psychisme est fait des deux. Et la plupart du temps, c'est justement le déséquilibre qui existe entre le point de vue de la connaissance et le point de vue psychologique, le point de vue psychologique affectif, qui fait que les données premières sont tout de suite faussées. Parce qu'on ne voit pas et on ne veut pas essayer de comprendre la signification distincte de la représentation. Et quel est le premier déclic de ça ? À quel moment vous passez de la représentation à la signification ? Un petit examen de conscience philosophique et de philosophie vitale. C'est très important. Et arriver à bien discerner ça. Ordinairement, quand on vit, on ne fait aucune attention à tout ça. Le philosophe qui divise les diverses opérations vitales est très attentif à ça. Si vous ne voyez pas la distinction entre signification et représentation, vous ne pourrez jamais comprendre ce que c'est que la vie intellectuelle, rationnelle, qui est le domaine de la signification. Alors que l'autre, c'est le domaine de l'imaginaire, et c'est le domaine de la représentation. Et c'est important de savoir à quel moment vous entrez dans ce domaine du troisième degré de la vie. Alors, une fois qu'on a fait ce point de vue-là, est-ce que je peux, est-ce que je dois, à partir de la signification, poser une nouvelle faculté ? Ce n'est pas une induction. Quand je passe de l'imagination, de la représentation, au domaine de la puissance qui est au point de départ, ce n'est pas une induction. C'est simplement une analyse, mais qui n'applique pas d'induction. Je vois que cette représentation que j'ai dans mon œil, dans ma vie, cette représentation reste du domaine de l'image et donc d'une connaissance sensible liée à un organe. Quand j'imagine quelque chose, nécessairement, toute ma sensibilité est engagée. Tandis qu'au contraire, quand je réfléchis sur la signification, ma sensibilité, je la laisse très au repos. Il vaut mieux. Surtout, n'agitez pas le produit avant de vous en servir. Parce que si vous agitez le produit avant de vous en servir, c'est la représentation qui prendra tout. Chez des gosses, la représentation prend tout. Puis le gosse arrive à l'âge de raison. Au moins une fois dans sa vie. Et quand il passe à l'âge de raison, il passe de la représentation à la signification. Vous n'avez jamais pensé ça, hein ? Quand on parle de l'âge de raison, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est capable de passer de la représentation à la signification. Philosophiquement parlant. Parce que quand vous représentez, et tant que vous représentez, vous restez dans le concret. Tandis que le jour signifie? Ça, c'est de l'ordre de la signification. Et ça, c'est important de saisir ce changement. Donc, supposons qu'on a fait la distinction entre signification et représentation, le domaine de la représentation, c'est l'imaginaire. Je m'imagine le petit chat, de petites oreilles, ou une moustache, ça dépend. Je m'imagine, je me représente le lion, je me représente la girafe. Tout de suite, vous représentez ça. Et je réfléchis sur la signification du mot animal et la représentation, la signification du mot animal, c'est tout à fait autre chose. D'un côté, je suis dans l'ordre concret, de l'autre, du nom, je suis du côté de la signification et je vois que tout de suite la signification se donne à moi. Selon une universalité plus ou moins grande. Tout de suite, je m'aperçois de ça. Et que la signification est donnée en premier lieu, dans ce qui est attribué universellement. Mais dans l'attribution universelle, il y a du plus et du moins. Animal est plus étendu. Animal est-il plus étendu que capable de penser, capable de rire? Oui. Mais il y a certaines choses qui sont plus ou moins universelles. Par exemple, quand je pense à la capacité de quelqu'un de sourire, est-ce que je peux dire que l'animal est capable de sourire? Non, je l'écarte. Pour être capable de sourire, il faut l'intervention de l'intelligence. Donc, de la signification. L'enfant qui sourit, même s'il ne le dit pas, c'est l'éclosion de la signification. C'est très curieux. Dans le sourire, il y a éclosion de la signification. Parce que quand on sourit, il y a un rapport, il y a une relation. parce que parmi les réalités intellectuelles que je saisis, il y a diverses modalités. Parmi ces prédicables, il y a différentes modalités. Alors je crois qu'au plan philosophique, je dois tout de suite saisir ces diverses modalités. Une modalité générique dont l'extension est la plus grande. Un aspect générique animal. Mais l'aspect générique est toujours relatif à autre chose. Et dès qu'il y a signification, il y a relation. Là, faisons attention, il y a relation. Parce que cette aspect de signification est relative à un autre animal, relatif à tel animal. Supporte l'extérieur et l'aspect générique est source d'une puisque l'imagination demeure toujours dans le domaine du singulier. Toute représentation est singulière. Toute signification est universelle. Et l'universel se présente à moi tout de suite selon trois modalités.
Ça.
symbolique.